Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et depuis quelque temps, Franck Ferrand nous propose sur Europe 1 régulièrement de revivre quelques-uns des moments les plus dramatiques de l'histoire de France. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Des moments dramatiques et même parfois tragiques ou désespérés, mais auxquels la France a toujours survécu. Histoire de réaliser à quel point les ressources, l'instinct de survie de ce pays sont étonnants. Aujourd'hui, je vous propose donc de revivre un épisode extrêmement délicat de notre histoire, celui du désastre de Pavie et de la capture du roi François Ier. C'était en février 1525.
Et si je ne me trompe pas, vous aviez d'ailleurs consacré un ouvrage au sujet.
Oui, disons que mon roman La Régente Noire, il y a quelques années maintenant, avait ce désastre de Pavie pour toile de fond. J'y ai d'ailleurs puisé les récits que je vais vous faire sous le contrôle de deux grands spécialistes de l'époque, Didier Le Fur, historien de la Renaissance, et Olivier Renaudot, conservateur des armes et armures anciennes au musée de l'armée. Tous les deux sont maintenant, disons-le, des habitués au cœur de l'histoire.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le 1er mars 1525, des cavaliers se sont écartés du Rhône, du cours du Rhône, si vous voulez, ils ont traversé Lyon avant le lever du soleil, ils ont gravi le coteau jusqu'au cloître fortifié de Saint-Just, où réside la cour sous l'égide de la mère du roi, Louise de Savoie, qui fait office de régente pendant cette campagne d'Italie. Un frémissement aussitôt a parcouru les galeries du vieux couvent, on a ranimé des feux, on a rallumé des torches, et l'on a répandu la nouvelle. Monsieur de Montpezat, officier du roi, et le vicomte Adrien, secrétaire de la duchesse d'Alençon, sont arrivés. Ils sont encore tout bottés, ils arrivent directement du Piémont et ils sont porteurs de bien mauvaises nouvelles. Depuis l'automne précédent, François Ier semblait pourtant béni des dieux. Les difficultés de Charles Quint en Allemagne, par ailleurs les atermoiements du roi d'Angleterre, Henri VIII, l'enlisement du connétable de Bourbon sous les murs de Marseille, tout ça avait rendu confiance au roi qui s'était décidé à aller faire campagne jusque dans le Milanais. Il avait même fini par mettre le siège devant Pavie, où ses troupes, attaquées du dehors, s'étaient retrouvées prises en tenaille. La régente, qui cette nuit-là n'a pas dormi, vous savez que Louise de Savoie avait la phobie du sommeil, donc elle dormait très rarement la nuit, reçoit les messagers sur le champ, emmitouflés dans sa fameuse chape de fourrure noire. Les deux gentilshommes s'agenouillent, et c'est Montpezat qui parle, il a la gorge nouée. Ce qu'il doit annoncer relève du désastre. Pavie est perdue, la noblesse de France est décimée, l'armée s'est fait littéralement tailler en pièces, on compte les morts par milliers, les plus grands capitaines ont été tués, la Palisse, la Trémouille, et même le bâtard de Savoie qui est le demi-frère de la régente Louise. Également tué l'amiral de Bonnivet, c'est lui qui avait poussé à l'affrontement, il faut dire, et qui, réalisant sa faute de désespoir, s'est jeté sans aume sur les lances ennemies. Et le roi ? Demande Madame Louise. Le roi est sauf, madame, seulement l'ennemi le détient captif. Il remet à la régente un billet signé de la main de son fils. Alors ce billet, il est très célèbre. « Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Ce qui entrera, vous le savez, dans l'histoire sous une forme ramassée, « tout est perdu, fort l'honneur ». Le messager ajoute que le maréchal de Montmorency a été pris lui aussi, et monsieur Chabot de Brion, et le roi de Navarre, et le comte de Saint-Pol, et monsieur d'Albret, tant de noms illustres. À l'énoncé de chacun d'eux, la régente vacille. En vérité, François Ier s'est battu comme un lion. Il a eu son cheval tué sous lui, il a essuyé des blessures à la face, au bras et même à la cuisse. Presque seul sous les tirs d'arquebuse, il a tenu tête à des Espagnols et à des Napolitains soutenus par des mercenaires du duc de Bourbon. Mais à la fin, il n'a dû son salut qu'à l'intervention d'un homme lige du connétable. Il s'est rendu au chef ennemi, à Lannoy. « Ne perdons pas le cœur, » lance la régente. Vous savez, elle fait partie, Louise de Savoie, de ces femmes très fortes qui ne renoncent jamais. Une fois de plus, elle va faire face. Et puisque le sort du royaume repose sur ses épaules, elle saura montrer à tous que cela ne l'effraie pas. Elle se tourne vers un secrétaire. « Nous ferons dire une messe pour mon frère et pour nos héros, qu'on m'envoie le chancelier. Il convient avant tout d'assurer l'ordre public. Nous allons écrire aux bonnes villes et prier les cours souveraines de nous déléguer leurs représentants. Je veux aussi qu'on convoque les lieutenants généraux et que soit établie au plus vite la contribution possible de chaque province. Peut-on joindre au plus vite nos amis de la cour d'Angleterre ? Voilà, Louise de Savoie a déjà tourné la page. Elle s'affaire à sauver le royaume. Mais avant d'étudier la manière dont elle va s'y prendre, parce qu'elle va le sauver ce royaume et elle fera même encore mieux, vous allez voir, il convient peut-être de se poser cette question. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Quelles sont les origines et les causes du désastre de Pavie? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant.
Un extrait sur Europe 1 du premier concert pour dessus et basse de Michel Pignolet de Monteclair. À tout de suite pour la suite au cœur de l'histoire. Et avec vos invités Franck aujourd'hui sur Europe 1, Olivier Renaudot qui est conservateur au musée de l'armée, chargé du département des armes et armures anciennes. Avec nous également Didier Le Fur, historien, spécialiste des 15e et 16e siècles. Il prépare d'ailleurs une biographie consacrée à François 1er qui sera publiée l'année prochaine aux éditions Perrin.
Et il est notamment l'auteur d'un très célèbre livre sur la bataille de Marignan. Alors là, on est quelques années plus tard, 10 ans plus tard, à Pavie. Et le roi François 1er, non seulement est battu, mais il est captif. C'est arrivé deux fois dans l'histoire de France. Une fois à Poitiers, enfin à côté de Poitiers, à Noyers-Maupertuis, en 1356. C'était la capture, évidemment, de Jean le Bon. Et puis, François 1er, donc en 1525. C'est un drame. Il faut prendre la mesure de ce drame, Didier Le Fur. C'est effroyable.
C'est immense. Mmh. On a, avec le temps, là, eu l'habitude de réduire complètement cet événement à quelques pages, à un événement historique, j'allais dire presque cocasse. Et trop chevaleresque même. Or, c'est un véritable désastre. Imaginez aujourd'hui un président de la République d'une très grande puissance mondiale incarcéré pendant un an et un pays presque livré à lui-même puisque toutes les frontières sont mises en danger et à l'intérieur, le risque de révolte civile existe aussi.
Alors comment est-ce qu'on a pu en arriver là, Olivier Renaudot ? On était dans le contexte de ces guerres d'Italie, en fait. Que faisaient tous ces rois de France, Charles VIII, Louis XII, maintenant François Ier, en Italie ?
Alors c'est une histoire ancienne puisqu'en fait ce sont liés aux prétentions qui ont commencé sous Charles VIII aux prétentions sur les anciens territoires italiens qui appartenaient à la famille d'Orléans en fait et donc une fois que en fait c'est aussi un signe de la stabilité politique qu'avait pu retrouver la France à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le royaume avait retrouvé sa sécurité et sa paix intérieure, il a pu regarder à l'extérieur et commencer une politique assez agressive vers les territoires extérieurs, et c'est l'Italie qui a été en quelque sorte choisie pour ces opérations, avec des prétentions plus ou moins légitimes.
Alors on est en conflit direct avec ce qu'on appelle les impériaux, c'est-à-dire les différentes armées de Charles Quint, qui au départ était roi d'Espagne et qui a été élu en 1519 empereur germanique. Donc nous avons maintenant un ennemi en la personne de Charles Quint.
En la personne de Charles Quint, surtout qu'en plus, il a aussi des prétentions sur le royaume de Naples, qui est aussi lié en quelque sorte à l'escarcelle impériale. Et puis, il ne faut pas oublier que l'empereur est le protecteur du pape, le protecteur de la papauté. Voilà, donc l'Italie est devenue le champ de bataille européen par excellence, et à peu près toute l'Europe finalement s'y retrouve, au grand malheur d'ailleurs des Italiens eux-mêmes, à vrai dire, comme étant un lieu, une sorte de lieu de rivalité politique.
Une guerre comme celle-là, alors on parle beaucoup en ce moment de la guerre, étant donné ce qui se passe évidemment au Mali, une guerre comme soutenir une guerre comme cette campagne d'Italie, ça coûte extrêmement cher dans un royaume qui a des problèmes financiers majeurs, avec une véritable crise fiscale. On peut dire ça, Didier
Le Fur. Dans les années 1520-1523, il y a toute une série de catastrophes qui se cumulent en France. Mm-hmm. Des problèmes de peste, notamment qui ravagent toute l'Aquitaine, la Normandie et la Bretagne, et puis aussi la région parisienne, des récoltes mauvaises à cause du temps, des inondations nombreuses, surtout en 1521-1522, et puis aussi après la sécheresse en 1523. Bref, ils ont toutes les calamités possibles et inimaginables. À côté de ça, les Anglais qui avait été si gentil avec le roi de France, en tout cas dans les années 1518-1520, eh bien, a tourné sa veste et est parti soutenir...
Il change d'alliance.
Voilà, il est parti soutenir Charles Quint. Et les Anglais, étant toujours présents à Calais, sont toujours une menace constante. Et donc, dès les années 1521, eh bien, vont commencer à attaquer le royaume de France. François Ier va se défendre, va essayer aussi de protéger l'acquis du duché de Milan qu'il avait acquis en 1515 avec Marignan. Et malgré tout, il va le perdre. C'est la bataille de la Biscoque. Et à partir de 1522, avance peu à peu, se dessine peu à peu ce désastre de Pavie.
Avec, en toile de fond, une rivalité incroyable entre François Ier et son cousin, le connétable de Bourbon, qui se trouve être à l'origine d'une des grandes trahisons de l'histoire de France. On est en plein dans cette aventure-là.
Alors, c'est une aventure qui se mêle à d'autres, puisque la défaite de 1522, on va en chercher des coupables. On va chercher Jacques de Beaune, trésorier. On va prétendre aussi que c'est le doigt de Dieu qui ne choisit plus François Ier comme protecteur du peuple chrétien. Les protestants, ou en tout cas la religion protestante arrive dans les grandes villes. Ça crée des peurs aussi. Il y a tout un contexte comme ça, avec notamment aussi l'augmentation des impôts que de plus en plus de villes refusent de payer. Et l'affaire Bourbon est une sorte de point d'orgue finalement dans cette crise à la fois nationale et gouvernementale.
Alors à cette époque, François Ier n'a pas encore 30 ans. C'est un jeune roi très brillant qui a commencé son règne d'une manière assez positive, disons-le. Comment est-il allé se fourrer dans cette histoire et surtout, quelles ont été dans le détail les circonstances de la bataille de Pavie? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Franck et ses invités nous racontent aujourd'hui sur Europe 1 le désastre de Pavie.
Et oui, on est donc en 1525, au tout début de cette année 1525, avec deux grands souverains qui sont très jeunes, enfin ils ont moins de 30 ans, Charles Quint d'un côté, François Ier de l'autre, et ils vont s'affronter. Alors, en tout cas, Charles Quint n'est pas lui présent sur le terrain, mais leurs armées vont s'affronter. À Pavie, comment est-ce qu'on est allé s'installer à Pavie, Olivier Renaudot ?
À vrai dire, c'est une campagne militaire qui avait bien commencé, puisque au départ, les armées impériales étaient allées jusqu'en Provence et avaient tenté notamment de prendre Marseille, avaient ravagé la Provence. Et elles vont être battues par les Français. Et en fait, les Français vont raccompagner en quelque sorte les impériaux jusqu'en Italie. Et emportés dans leur élan, ils vont réussir également à reprendre Milan. Donc plutôt une campagne qui a priori commence sous de bons auspices. Et ensuite, va se poser la décision au sein de l'état-major français, comment continuons-nous à écraser cette armée impériale après laquelle nous courons. Et certains...
En fait, c'est un peu la course à l'échalote. C'est-à-dire qu'on les poursuit, on va de plus en plus loin dans le Milanais. Oui.
En essayant de tenter en quelque sorte d'écraser cette armée impériale qui est en retraite. Et certains des officiers français auraient plutôt été intéressés pour aller conquérir la ville de Lodi, donc qui est un petit peu au-delà de Milan. Et puis c'est l'amiral Bonnivet qui va conseiller à François Ier de se diriger vers
celui qui va donc se jeter sur les lances de l'ennemi, comme je disais tout à l'heure, de dépit devant les conséquences de sa décision.
Ben oui, devant le peu de succès de cette opération militaire. Et à la ville de Pavie, donc, où se sont retranchés en fait à peu près 9000 impériaux, donc qui tiennent la cité et qui se sont fortifiés assez fortement. Donc les Français vont mettre
le siège. Hein, voilà,
c'est un
ça,
siège.
Hein,
au départ, c'est un siège. Les Français s'installent au mois d'octobre, donc 1524 devant Pavie, et c'est un siège qui va durer longtemps. Qui va durer longtemps puisque ils tentent de canonner la ville. On installe des batteries à l'ouest et à l'est de la ville de Pavie, sans grand succès. Et en fait, les armées impériales qui continuent à tourner autour de ces espaces vont essayer de débloquer la garnison de Pavie et vont venir en quelque sorte assiéger les assiégeants.
Ben voilà.
Donc trois mois après, donc au mois de février 1525.
Donc c'est un siège à deux degrés.
À deux degrés. En quelque sorte, les Français sont pris en tenaille entre la garnison de la ville de Pavie d'un côté et les impériaux qui sont venus les rejoindre et qui sont prudents.
On va essayer de desserrer la tenaille. Ça, c'est la bataille du jour de la Saint-Mathias.
Elle commence très tôt le matin. Faut préciser aussi une chose, c'est que depuis janvier-février, tout le monde pense que la victoire française est acquise.
Oui.
Et que toutes les alliés...
On est en position de force.
C'est ça. Oui. Et que donc tous les alliés de Charles Quint le quittent peu à peu pour retrouver un peu d'amitié avec François Ier, parce qu'ils sont persuadés que Pavie va tomber. Pavie est une grosse ville, certes, mais la nourriture manque. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont plus rien à manger, qu'ils ne sont plus approvisionnés. Et donc, voilà. Il y a ce coup magnifique de cette armée de Bourbon soutenue par les impériaux qui restructurée, renourrie, parce qu'il y avait
un sale état
en quittant la France, et bien vont attaquer en pleine nuit le camp du roi, le camp royal. Ça va être une surprise. Et en à peu près 3 heures, l'affaire est bouclée.
Mais alors, que vient faire François Ier au fort de la mêlée? Qu'est-ce qu'il va se mêler de ça, lui? Pourquoi est-ce qu'il l'attaque personnellement?
C'est le roi chevalier. C'est-à-dire qu'il n'a pas retenu la leçon de ses prédécesseurs qui, après notamment le désastre de Poitiers qu'on a déjà évoqué, se sont bien gardés de s'exposer au combat. François Ier est le roi chevalier et dès le début de son règne, il s'expose au milieu de sa noblesse comme étant le premier, en quelque sorte, des nobles, le premier des gentilshommes chevaliers de sa français. Et il n'hésite pas à revêtir le harnois et à monter à cheval et à combattre et même à tuer, puisque
avant que l'artillerie ait commencé à déblayer le terrain, c'est ça qui est incroyable.
Alors,
c'est même pire que ça, c'est qu'au moment où le roi charge, il se prend les tirs d'artillerie sur la figure, si je passe l'expression.
Ça, je dirais que c'est la première bêtise tactique d'un siège et d'une opération militaire qui était assez hasardeuse, qui était cette opération nocturne menée par l'armée impériale. Et les Français étaient plutôt en bonne position, et notamment avec une artillerie disponible qui pouvait aller canonner les impériaux qui se rapprochaient. Et au lieu de laisser l'artillerie finir le travail, en quelque sorte, François Ier charge avec sa gendarmerie, c'est-à-dire avec sa cavalerie lourde, et passe en quelque sorte entre ses canons et l'adversaire. Donc du coup, évidemment, les canonniers français sont obligés d'arrêter de tirer. Et la cavalerie française va charger sans appui contre une infanterie qui, à l'époque, est en mesure de résister contre la cavalerie.
Oui.
Parce que la tactique de l'infanterie de l'époque permet justement de résister à une cavalerie cuirassée.
Conséquence de toutes ces mauvaises décisions, 2 conséquences. D'abord, une bataille très meurtrière, on perd beaucoup de monde et notamment beaucoup de chevaliers.
Alors là, tous les chiffres sont permis, mais grosso modo, ouais, 8000 morts en quelques heures.
Et puis, le roi prisonnier. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ce roi François Ier?
Alors c'est un otage formidable. Le but des guerres, c'est pas forcément de tuer, c'est aussi de prendre des otages pour pouvoir après se rembourser des frais de guerre. C'est une manne formidable parce que c'est pas simplement de l'argent qu'on va demander, c'est des terres. Et très très vite, le roi prisonnier, au-delà de la joie dans le camp impérial, eh bien c'est aussi toutes les négociations diplomatiques qui vont commencer à...
Alors, on l'emmène en Espagne, en fait, hein?
Pas tout de suite. Il est mis d'abord dans une chartreuse près de Parme. C'est à partir du mois de juin, simplement, qu'il partira en Espagne. C'est-à-dire qu'en grosso modo, il risque quand même
de traverser la Méditerranée.
Voilà. Mais pendant ce temps, de février à juin, en France, on espère vraiment une libération possible et immédiate. Louise de Savoie s'active durement auprès du roi d'Angleterre pour essayer de faire un traité rapide. Le roi d'Angleterre va accepter au mois d'août, moyennant en finances, 2 millions d'écus.
Et, très grosse somme.
C'est énorme, c'est grosso modo une année fiscale.
C'est ça.
À côté de ça, il y a des propositions qu'on va faire au roi de France, c'est-à-dire que c'est un démantèlement complet du royaume. Hein. C'est un projet qui avait déjà été envisagé dès 1523, qui va être remis sur la table. Charles Quint récupérant tout son héritage bourguignon, le roi d'Angleterre, alors allié, en tout cas encore à l'hiver 1525 à Charles Quint, va réclamer l'Aquitaine, la Guyenne, la Normandie, une partie de la Picardie.
Pourquoi se gêner, hein?
Et le titre de roi de France. Et pour Bourbon.
Donc ce qu'il faut...
Un royaume à l'intérieur avec la Provence et ses territoires.
Ce qu'il faut bien comprendre donc, hein, c'est que l'existence même de la France est mise en cause dans cette affaire. On peut penser que c'est la fin du royaume de France.
Complètement.
C'est gravissime.
C'est vraiment gravissime.
C'est sans doute une des pages les plus noires de toute l'histoire de France.
Oui.
Alors le roi va se retrouver finalement au donjon de Los Luranes à côté de Madrid il est en captivité et on apprend peu à peu à la cour, quand je dis à la cour c'est chez Louise de Savoie en France, à Lyon, elle va remonter bientôt sur la Loire, on apprend qu'en fait le roi va de plus en plus mal et il est en train de tomber malade et Louise Venise, lui envoie en ambassade sa fille, donc la sœur du roi, Marguerite, hein, la célèbre Marguerite qui à l'époque est encore Marguerite d'Alençon. Son mari est mort d'ailleurs des suites, indirectement des suites de la bataille. Et on va voir Marguerite faire le voyage jusqu'en Espagne, jusqu'au chevet de son frère prisonnier.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui s'intéresse maintenant au voyage de Marguerite de Valois jusqu'en Espagne.
Eh oui, les conditions de détention du roi sont dures. La chambre forte où on le tient prisonnier d'État, on est dans une tour des fortifications de Madrid, hein, est une sorte, alors selon les témoignages, certains disent un galta, d'autres disent un ensemble de petites pièces, mais quoi qu'il en soit, la seule fenêtre dont dispose le roi est barrée d'une double grille de fer et elle est placée bien trop en hauteur pour qu'on puisse voir le paysage. Et d'ailleurs, le paysage, entre nous soit dit, ce sont les rives arides du Manzanares et l'horizon pierreux du Guadarrama. Donc, d'une façon générale, on est un peu dans une sorte de désert. Il faut imaginer cet air sec de Castille. Si vous êtes allé dans cette région, vous savez à quel point les corbeaux sont omniprésents aussi. Donc tout ça crée un climat, évidemment. Cet air sec s'insinue par l'unique ouverture. De même, donc, ce cri des corbeaux. Et puis les échos des hallebardes que manie 100 pieds plus bas dans le fossé. Tout un bataillon de vieux soldats qu'on a placé là, que Charles Quint a fait placer là. Des sentinelles, donc, sont partout. Certaines montent la garde jusque dans le couloir, devant la porte renforcée du roi de France. Et sous ces voûtes médiévales, les éclats de voix rendent un son un peu sinistre. Il faut imaginer une très vieille bâtisse. C'est dans ce mouroir, si je puis dire, que François Ier s'étiole donc. Il ne faut pas oublier que cet homme-là, jusqu'ici, a quand même eu une vie relativement facile. Il a été élevé dans la douce lumière de Cognac et sous les cieux cléments d'Amboise. Il a été habitué depuis toujours à chasser presque quotidiennement, à jouer à la paume. Il est habitué aux grands espaces, il s'ébat. Puis c'est un amateur impénitent de femmes. Vous connaissez quand même la réputation de François Ier. Il aime les chevaux, les courses, les festins. Et là, d'un seul coup, voilà le régime très austère imposé par l'empereur. Autant dire une manière de supplice. D'ailleurs, le captif ne va pas tarder à dépérir. Les officiers et les serviteurs qui sont admis à son intimité s'alarment de son teint de plus en plus pâle, de ses traits creusés, de son regard qui devient terne. Un abcès s'est déclaré au nez qui entraîne une fièvre et qui en peu de jours va avoir raison de la constitution réputée solide de François. Le roi de France va devoir s'aliter, il est tout frissonnant, il a donné les signes d'une certaine confusion mentale assez vite, et nuit et jour, il réclame sa mère, sa sœur, il fait implorer l'empereur de lui accorder ne serait-ce qu'une audience. Les médecins qui sont dépêchés sur place par la cour d'Espagne, médecins français autant qu'espagnols d'ailleurs, adoptent, vous savez, la mine circonspecte qu'on réserve aux cas graves. Ni les tisanes, ni les onguents, ni toutes sortes de remèdes qu'on va appliquer au roi de France n'améliorent son état. Alors, à ce moment-là, Charles Quint s'inquiète évidemment. Vous avez compris à quel point cet otage vivant est pour lui d'une très grande importance et politique et financière. Et Charles Quint, dans l'espoir de remonter le moral de son prisonnier, se rend lui-même à son chevet. La teneur de leur entretien nous a été communiquée par deux chroniqueurs. « Empereur, monseigneur, dit François Ier, enfin quand je dis « dit », plutôt un râle qu'il faut imaginer, « vous voyez ici votre serviteur et votre esclave. »« mais non, dit Charles Quint. » Je ne vois en vous qu'un homme libre et mon bon frère et véritable ami. Je ne suis que votre esclave. Non, non. Ce qui importe le plus est votre santé. Ne songez à rien d'autre. Pour le reste, vous verrez que tout va s'arranger dès que Madame d'Alençon, donc la sœur de François Ier, sera là. Rassurez-vous, tout ira comme vous désirez. Le roi malade émet un étrange râle, comme si sa gorge serrée ne lui permettait pas d'exprimer tout ce qu'il attend de l'arrivée annoncée de sa sœur. « Vous voyez en moi votre esclave, » redit-il d'une voix étranglée. Il a tendance à se dévaloriser lui-même, François Ier, dans cette circonstance. Ce mot d'esclave revient pour la troisième fois dans la bouche d'un souverain régnant, tout de même, que je sache. Ça a quelque chose de pénible, évidemment. Le roi de Naples, Montmorency, qui sont là et qui accompagnaient l'empereur, échangent un regard de gêne. « Sire, intervient le maréchal, Sa Majesté l'empereur et roi a tenu à venir vous témoigner de son amitié et de sa confiance dans un règlement très prochain de la paix. Votre Majesté elle-même me disait pas plus tard que ce matin combien elle fondait d'espoir sur cet accord à venir. « Mon bon seigneur est maître de tout », insiste François, qui décidément est bon pour l'humiliation et pour une totale dépression. L'empereur va mettre les propos du roi de France sur le compte de la fièvre et il prend sa main dans la sienne et il lui parle pour le rasséréner de l'arrivée de sa sœur, de l'arrivée de Marguerite d'Alençon qu'on attend maintenant d'une heure à l'autre.
Un extrait sur Europe 1 du quatrième concert pour deux suées basses de Michel Pignolet.
Alors justement, Marguerite et son cortège atteignent la tour de Los Luranes le soir du 19 septembre de cette désastreuse année 1525. L'empereur lui fait rendre les honneurs à la lumière d'une forêt de torches. La princesse, pour la circonstance, est vêtue de neuf, mais sous ses voiles de deuil, encore une fois, elle vient de perdre son mari, elle paraît fatiguée et surtout on voit bien qu'elle est très émue. Elle accepte les embrassades, les cajoleries de Charles Quint, puis sans prononcer un mot, elle se laisse guider tout au long de couloirs et d'escalier assez lugubre jusqu'à la pièce où se tient le roi. À ce moment-là, on imagine l'émotion qui submerge Marguerite. Elle vient de faire un voyage extrêmement long et pénible pour retrouver son frère. Et lorsque l'empereur s'efface pour la laisser entrer dans la chambre du malade, elle attend un moment sur le seuil, puis elle s'approche du lit et elle découvre son frère presque méconnaissable. Il est tellement vieilli, amaigri, il est livide et surtout il est presque sans connaissance. Du reste, François la regarde, l'œil infiniment triste, mais sans doute à cause des fièvres, il ne la reconnaît même pas. La princesse ne l'embrasse pas moins tendrement en son nom et au nom de leur mère. Le roi réagit à peine. Il ne prononce pas un mot. « Eh bien, dit-elle, mon bon seigneur, ce n'est pas l'accueil que vous aviez promis à votre mignonne. » C'est ainsi qu'il appelait toujours sa sœur. « Voici enfin votre chère sœur, » insiste l'empereur qui a fini par entrer dans la chambre. « Elle a fait le plus inouï des voyages pour vous voir. » Le roi dévisage Marguerite et il détourne le regard, il ferme les yeux. On peut imaginer à quel point la princesse s'est effondrée. Trois jours plus tard, le 22 septembre, les médecins ont baissé les bras. L'abcès de François, son abcès au nez, a pris un très mauvais aspect. La fièvre s'est installée. Certains praticiens déclarent que François ne passera sûrement pas les deux, en tout cas pas les trois jours. Alors Marguerite s'en remet au seul remède finalement qu'elle ait respecté, l'action de grâce. Elle rassemble tous les fidèles autour du souverain captif et malgré la relative exiguïté de la chambre, elle invite la petite cour agenouillée à réciter avec elle une prière aux agonisants. Et comme elle ne recule devant aucun effort, elle est allée jusqu'à faire dresser dans un coin de la pièce un autel de fortune où l'on va pouvoir dire une messe. C'est l'archevêque d'Embrun qui officie. À l'heure de l'élévation, le prélat s'approche du mourant et d'une voix forte, il l'exhorte à regarder le Saint-Sacrement. Le roi lui obéit un peu machinalement. Il rouvre un œil, il fixe plus ou moins la grande hostie. Il amorce même un geste des bras. Alors Marguerite, après la messe, lui met l'hostie sous les yeux et contre toute attente, le roi se met à parler. « C'est mon Dieu, dit-il, sire, c'est mon Dieu qui me guérira l'âme et le corps. » Il regarde sa sœur et l'implore. « Je vous prie de me permettre de le recevoir. »« Mais sire, intervient l'archevêque, vous ne pourrez avaler si fait. » Et aussitôt, Marguerite détache un morceau de la grande hostie. Elle la passe entre les lèvres de son frère. Et à ce moment-là, on peut dire que la dévotion du roi frappe tellement les personnes présentes qu'elle s'agenouille de nouveau comme un seul homme. La princesse retient ses larmes et on peut se poser la question. Que s'est-il passé à ce moment dramatique entre tous? Est-ce, comme devaient l'affirmer certains médecins par la suite, est-ce l'effort de la déglutition qui, aidant à crever l'abcès, a sauvé le roi François? En tout cas, dès le surlendemain, il sera déclaré tiré d'affaire. Et la semaine suivante, il aura recouvré la santé. Le matin où enfin il reconnaît sa sœur, vous imaginez la scène des retrouvailles. Retrouvailles différées certes, mais retrouvailles merveilleuses selon les témoins. François couvre de baisers le visage de Marguerite. Il est presque redevenu lui-même.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur Europe 1, nous nous intéressons à la bataille de Pavie, à la captivité du roi François Ier, conséquence de la défaite.
Toutes ces conséquences terribles d'une bataille perdue en février 1525 sur le territoire piémontais. Et finalement, c'est en Espagne que François Ier se retrouve captif de Charles Quint. Alors, il a failli mourir. Je crois qu'il est vraiment passé très près de la mort, probablement, hein, dans cette affaire, à moins qu'il n'ait faim. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Ça, c'est très compliqué. Il est incontestable qu'il soit tombé malade. Il est incontestable aussi que Louise de Savoie n'a pas été mise au courant tout de suite. Mm-hmm. Elle a su vraiment la maladie, la gravité
de
la maladie.
Vous imaginez ce qu'étaient les distances à l'époque, en plus.
C'est ça,
évidemment,
en plus.
Hein.
Voilà, hein, il faut à peu près 3 semaines mais pour que les courriers et les nouvelles circulent. Mm-hmm. Et aussi, sans doute, parce que cette maladie et cette possible mort du roi auraient encore augmenter la terreur dans le royaume et permis à certains encore de profiter de la situation pour s'imposer davantage, notamment le duc de Vendôme qui espérait sans doute aussi prendre un peu plus d'ampleur.
Il faut dire que Marguerite était en Espagne avec un blanc-seing de sa mère pour mener des négociations qui ont échoué. Alors lamentablement, hein, les négociations de Marguerite ne donneront rien, mais néanmoins, on finit entre les deux cours par trouver un accord extrêmement défavorable à la France et que va sanctionner le célèbre traité de Madrid. Mais ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'au moment de signer ce traité, le roi François Ier va faire une chose assez extraordinaire, Olivier Renaudot. C'est-à-dire qu'il réunit sa noblesse et il leur dit ce que je vais faire ne compte pour rien.
Oui, puisque il considère qu'il a été en quelque sorte contraint à ce traité et qu'il était dans des conditions de dépendance vis-à-vis de Charles Quint, et qu'en quelque sorte il a été contraint et forcé il n'a pas signé de bon gré en quelque sorte. Et en dehors des conséquences évidemment politiques et territoriales qui sont énormes. Donc il est dans un état de suspension, je dirais, de suspension de sa volonté. Le traité va être signé parce que c'est une des conditions de sa libération.
Et alors, la grande condition concrète, c'est que soit échangé le roi contre des otages d'État. Alors, dans un premier temps, on a pensé à prendre 12 grands capitaines du royaume de France, et il semblerait que c'est Louise de Savoie qui, ne voulant pas se dégarnir de ses grands militaires...
Mais c'est qu'il en restait plus beaucoup.
A préféré envoyer, alors c'est une histoire de fou, elle envoie ses deux petits-enfants aînés.
Les deux premiers héritiers, surtout. Oui. C'est surtout ça qui est le plus important, oui. c'est que si le roi, déjà malade, pouvait encore décéder, et que les enfants en bas âge, parce qu'ils avaient 5 et 6 ans et demi, eh bien pouvaient eux aussi...
C'est François et Henri. Hein.
Voilà, ouais. et pouvaient eux aussi décéder rapidement. Donc il ne restait qu'à la France un tout petit enfant, Charles, qui avait juste un an et demi, et c'était un pari vraiment sur l'avenir.
Alors on va assister à cette scène absolument incroyable de l'échange des otages. On est sur ce petit fleuve qui sépare la France de l'Espagne, hein, sur la Bidassoa. Le roi François Ier monte vers le nord, il repasse en France, et pendant ce temps-là, sur le radeau, hein, puisqu'il se retrouve au milieu, sur une sorte de petit ponton, au milieu du fleuve, eh bien, il croise ses enfants, qu'il embrasse une dernière fois. Et alors, les enfants sont accompagnés, ils ont une suite de 60 seigneurs et dames, tout de même. Mais enfin, les enfants en question, ils sont désormais otages de l'empereur. Oui. C'est incroyable comme situation.
Ben, c'est-à-dire que la tradition de garder des otages tant que le traité de paix n'est pas signé est une tradition ancienne. Mm-hmm. Là, c'est le fait qu'on prenne des enfants droits. Ça, c'est ça qui est tout à fait nouveau. Et surtout que ces enfants vont rester 4 ans. Parce que on va mettre 4 ans à s'entendre entre la France et l'Empire pour régler ce problème de Pavie.
À s'entendre ou ne pas s'entendre du tout, parce que ce qui est encore plus extraordinaire que tout ça, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une des pages les plus étonnantes de l'histoire de France. Non seulement le roi a été fait captif, il a signé un traité en disant à ses propres compagnons d'armes qu'il le signait sous la contrainte et que ça n'aurait pas de validité. Finalement, on échange ce roi contre ses propres enfants. Il n'a rien de plus pressé, sitôt libéré, que de dénoncer le traité et de relancer la guerre contre l'empereur alors que ses propres fils sont en otage. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, d'hôtes d'État, ils deviennent prisonniers. Et d'ailleurs, leur statut s'en ressent puisqu'ils vont être carrément les pauvres gamins. Ils sont mis en geôle, hein, vraiment en prison.
Hein. En geôle. En même temps, je pense que Charles Quint, et c'est certainement un calcul de François Ier, Charles Quint ne voulait pas passer aux yeux de l'Europe comme étant un bourreau d'enfants. Mm-hmm. Donc de toute façon, il avait des otages entre les mains qui, malgré leur importance dynastique, étaient finalement sans grande utilité. Mm-hmm. Et à peine libérés, François Ier repart en campagne, grâce aux négociations qu'avait menées sa mère d'ailleurs, il recrée une ligue
La Ligue du Cognac,
avec le pape, avec les Vénitiens, de façon à repartir en campagne contre...
Et surtout isoler Charles Quint.
Et voilà. Finalement, Charles Quint, qui était le vainqueur, ça arrive souvent ça dans l'histoire, il était le vainqueur de Pavie, et un an et demi plus tard, il se retrouve très isolé en Europe et dans une situation de grande faiblesse finalement, attaqué de toutes parts sur un territoire qui est tellement vaste qu'il est d'ailleurs quasiment impossible à défendre. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect financier. Parce qu'en échange de la libération du roi, même s'il y a des otages, évidemment l'Empire a demandé une rançon, et pas n'importe quelle rançon. Olivier Renaudot, c'est une somme
absolument colossale. Je crois que ça se montait à plusieurs millions de
livres. Au départ, c'était 3 millions d'écus, ce qui est énorme. Avec les négociations, elles sont tombées à 2.
Quand on dit 3 millions d'écus en année fiscale, c'est quoi à peu près?
Ça fait toute une année de taille et sans doute tous les impôts indirects.
C'est l'équivalent actuel de plusieurs dizaines de milliards d'euros, pour que les gens comprennent.
Surtout qu'avec le traité d'Angleterre l'année précédente, plus cette demande de rançon, avec les difficultés financières que la France avait déjà depuis les années 1521-1522, où les impôts ne rentraient plus et où on avait dû déjà surtaxer les villes, l'église et la noblesse, c'était une véritable catastrophe financière.
On raconte qu'il a fallu accrocher l'un à l'autre 340 mulets pour porter les énormes caisses dans lesquelles se trouvaient les écus d'or, parce qu'on payait en or à l'époque.
Et on voulait les compter. Enfin, les Espagnols absolument voulaient de l'or.
Ils les ont comptés un par un.
Un par un. Et on a emprunté aussi, du coup, le Royaume de France n'ayant pas ces sommes-là, a emprunté en Espagne et au Portugal.
Mais alors, notamment. Ce qui est fascinant, et ça n'est pas la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire de France, je pense notamment, évidemment, à ce qui s'est passé en 1871 avec les dommages de guerre dus aux Prussiens devenus Allemands. On a vu sortir, même si effectivement il a fallu emprunter pour combler, on a vu sortir des bas de laine, si je puis dire, des sommes totalement inattendues. Des concours financiers de toutes sortes de communes, etc. ont été donnés à la couronne de France. On a l'impression que même quand la France est complètement à genoux, même quand elle est au bord de disparaître, ce qui était le cas en 1525-26, on a l'impression qu'il y a toujours des espèces de double et triple fonds dont on sort de l'argent, on ne sait d'où. C'est quand même un pays d'une richesse phénoménale.
Une des grandes institutions qui a notamment un bas de laine bien garni, c'est l'Église.
Eh oui, voilà.
C'est l'Église qui, évidemment, n'est pas imposée aux taxes et aux impôts royaux, et qui sert en quelque sorte de réservoir, de trésorerie, en quelque sorte, à l'ensemble du royaume.
En attendant, bien sûr, un remboursement.
En cas de difficulté.
Mais elle s'est fait un peu tirer l'oreille, quand même. Elle a mis un peu de temps à...
Il y a une figure majeure dans toute cette histoire, parce que là, bien sûr, elle est passée un peu au deuxième plan dans notre discussion, mais celle qui va mener toutes ces histoires, qui va régler la question, qui va tenir le pays à bout de bras, et qui ensuite, mieux que ça, va faire la paix, on va le voir dans un instant, c'est la mère du roi, c'est ce personnage oublié de l'histoire de France, c'est Louise de Savoie.
Le retour de la paix sur Europe 1, une cantate de Michel Pignolet de Monteclerc, interprétée par Jacqueline Nicolas.
On est dans de la musique du XVIIe siècle, mais si je vous diffusais de la musique du début du XVIe, oui, je crois que les gens s'en iraient.
On resterait à 4, finalement.
Oui, c'est assez fou.
Alors, c'est ce retour de la paix, il va être dû à Louise de Savoie, pas seulement à Louise d'ailleurs, aux dames. Alors, il faut qu'on explique qui sont ces dames qui vont se retrouver à Douai, puisque ce sera la paix de Douai. Alors, c'est un peu plus tard. On est là en 1529, à Cambrai, pardon, je dis Douai, à Cambrai. On est en 1520. En fait, pour tout vous dire, c'est Didier Le Fur qui me souffle dans la réponse. Ce traité va avoir lieu en 1529. Alors, pendant longtemps, ni François Ier, ni Charles Quint ne sont capables de mettre fin à la guerre. Il va falloir que ces dames s'en mêlent, en quelque sorte.
C'est-à-dire de 1526, de printemps 1526, date de la libération de François Ier jusqu'à l'été 1529, c'est un bras de fer que François Ier et Charles Quint se livrent, où personne n'accepte de perdre, n'accepte pour François Ier de respecter ses engagements. Charles Quint, lui, courant après le respect de ses engagements pris par François Ier. Les alliances changeant continuellement, les problèmes d'argent aussi se cumulant, notamment pour Charles Quint. Et on arrive finalement à cette paix, non, qu'on appelle la paix des dames, c'est-à-dire que finalement, les deux hommes ne pouvant pas se supporter, ou en tout cas étant toujours en rivalité constante et cherchant continuellement soit à se provoquer.
Trop jeune, trop peu sage, trop impliqué dans l'événement.
Trop orgueilleux aussi, et avec cette idée tout le temps que l'un est de trop.
Mais c'est ça.
C'est tout bête, mais François Ier était persuadé d'avoir la couronne impériale, il ne l'a pas eu. Charles Quint estime qu'il a le droit à tout.
Qu'il avait presque mis fin au royaume de France et que d'un seul coup, le royaume de France est presque intact, donc ça ne lui convient pas.
Et on est dans cette logique-là. Et donc, du coup, c'est la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui a porté, c'est vrai, pendant un an et demi, le royaume de France sur ses épaules et avec de grosses difficultés parce que c'était une femme, elle n'était pas légitime.
Évidemment.
Donc la possibilité de la renverser ou en tout cas de ne pas lui faire crédit, notamment le Parlement de Paris qui a pris beaucoup de libertés pendant ce temps-là en espérant justement regagner des libertés qu'il avait ou qu'il croyait avoir perdues.
Donc d'un côté la mère de François Ier et de l'autre la tante de l'empereur.
Voilà, c'est qui
avait, de Bourgogne.
Avec des rapports avec la France assez compliqués aussi depuis Charles VIII et qui était une grande diplomate, une grande politique. Et ces deux femmes finalement d'expérience qui ont presque le même âge eh bien, vont se retrouver et vont négocier pour leur fils à Cambrai pour leur fils et leur neveu. Cette paix qui est un peu mieux que le traité de Madrid, même si c'est pas forcément très 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 avantageux pour François Ier.
Non évidemment, mais on a quand même perdu la bataille de Pavie, hein, faut pas l'oublier. On a quand même, si j'ose dire, sauvé les meubles largement dans cette affaire. Quelles vont être les conséquences de Pavie ? D'abord, le roi revient à Paris. Ça, c'est quand même.
Alors, c'est une conséquence importante et un peu oubliée et qui va avoir du coup des lendemains artistiques assez inattendus. Oui. C'est-à-dire que jusque-là, et depuis une période assez reculée, depuis en gros que le jeune Charles VII a été obligé de quitter Paris au moment des émeutes entre Armagnac et Bourguignon, eh bien, Paris n'avait jamais repris finalement son rôle de capitale politique et administrative du royaume. La cour s'était toujours promenée sur les bords de la Loire, bon, d'où le nombre évidemment de châteaux, de résidences, etc., construites pour la cour ou pour les officiers royaux, donc sur les bords de Loire. Et en fait, du fait de la solidarité qu'avaient montré en quelque sorte les Français, notamment au moment où il avait fallu payer la rançon du roi, peut-être aussi pour contrôler la ville de Paris, parce qu'on s'était rendu compte, comme on l'évoquait à l'instant, que le Parlement avait essayé de prendre des libertés au moment où Louise de Savoie assurait la régence.
Il fallait avoir tout le monde sous la main,
et la municipalité au cœur du royaume. Les impôts aussi en même temps.
Voilà. Donc le roi décide de refixer sa résidence
à
Paris. Et ça va être le début grand chantier du Louvre. On va démédiévaliser le Louvre en quelque sorte. Voilà.
On va le moderniser aussi.
Le chantier de l'aile d'Escaut, mais qui viendra plus tard. Et puis surtout, la création de la résidence de Fontainebleau, qui va devenir la résidence préférée du roi en Ile-de-France, qui au départ n'était qu'un petit manoir associé à un couvent. Et qui va devenir le château que l'on connaît.
Alors vous, au musée de l'armée, vous, aux Invalides, vous avez, Olivier Renaudot, un certain nombre de, si je puis dire, de reliques de Pavie.
Alors nous avons des reliques qui ont été, nous avons un double trophée qui est d'abord l'épée que François Ier avait gardée dans sa tente, qui est une épée d'apparat, une épée qui n'a absolument pas du tout la structure d'une arme de guerre, puisque c'est une arme ornée d'or et d'émail, qui a été récupérée par les Espagnols dans la tente de François Ier après le désastre de Pavie, et qui est restée conservée à titre de trophée en quelque sorte à Madrid, et qui ensuite a été récupérée sous Napoléon par Murat en 1808 au moment de la campagne d'Espagne pour être amenée à Paris. Et cette épée, elle est dans nos murs. Au même
vous
titre...
n'avez pas l'armure de Pavie, hein,
alors,
mais
hélas,
vous avez
non.
tellement d'autres belles armures. D'ailleurs, je le dis toujours à nos auditeurs, courez à l'hôtel des Invalides voir ces extraordinaires armures anciennes. En revanche, vous avez les canons.
Alors nous avons les canons qui ont aussi connu des circonstances assez intéressantes, c'est-à-dire que François Ier a perdu son artillerie à l'occasion de cette bataille, donc récupérée à grand profit par Charles Quint. Et il se trouve que Charles Quint, lors d'une tentative d'assaut d'Alger en 1541, a perdu les canons qu'il avait lui-même récupérés auprès des Français. Et ces canons sont restés à Alger.
C'est incroyable.
Où ils ont été récupérés par l'armée française en 1830. Ouais,
l'histoire de ces canons, leur périple est assez extraordinaire. Hein. C'est très romanesque finalement.
Et ils portent la salamandre de François Ier, donc leur identification ne fait aucun doute.
On aurait pu penser qu'après un désastre pareil, l'image de François Ier serait définitivement perdue dans l'opinion et dans la chronique française. C'est pas ce qui va se passer. Au contraire, on le protège plutôt. Hein.
Au contraire, parce que c'est un désastre, c'est une véritable calamité, mais il a retrouvé son autorité royale à partir de 1526, 1527 et notamment lors du lit de justice de Paris. Et donc, toute la propagande va s'activer pendant, jusqu'à la fin, même après, à essayer de faire oublier ce désastre et à faire oublier la défaite en sublimant avec l'idée de courage, l'idée de chevalerie, qui va complètement renaître dans la littérature. Ouais. Et donc, de composer peu à peu, finalement, de ce François Ier guerrier, une image toujours glorieuse, malgré cette catastrophe.
Et entre parenthèses, vous disiez tout à l'heure que Louise de Savoie était peu légitime et qu'elle aurait pu être déposée ou renversée. C'est incroyable de voir l'incroyable légalisme du pays pendant cette période. Il n'y a pas eu de révolte, tout le monde
a suivi. C'est un moment qui préfigure un autre moment d'ailleurs que va connaître la France quelques années auparavant, que vous avez déjà évoqué avec la bataille de Saint-Quentin, où on donne aussi un rôle important aux femmes qui en quelque sorte sont chargées
Catherine en l'occurrence, qui sont chargées de
redonner au pays sa cohésion nationale, on peut le dire déjà, autour de son roi vaincu.
Merci beaucoup à tous les deux. Je ne veux pas terminer cette émission sans citer évidemment l'ouvrage célèbre de Jean Giono, Le désastre de Pavie, 24 février 1525, qui est réédité en folio Histoire. Car Jean Giono, outre ses immenses talents pour le roman, était aussi un historien ou en tout cas un grand chroniqueur d'histoire, pour
c'est
être plus exact.
Le seul qui ait osé vraiment écrire une histoire de cette bataille.
Et pour cause, c'est tellement complexe. Un grand merci aussi évidemment à Fabrice qui est aux manettes et à Guillaume qui réalise cette émission. Et puis aux deux fées qui m'aident chaque jour à préparer votre émission, Lorena Martin et Marion Sauveur. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous ne savez pas le travail inouï qu'elles peuvent faire chaque jour. Nous avons bientôt, ce n'est pas tout de suite, c'est dans un petit peu plus d'une semaine, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine suivante, nous aurons une semaine spéciale consacrée aux grands mystères de l'histoire. Alors je me suis fait plaisir, si je puis dire, un certain nombre des grandes énigmes qui sont mes marottes, je les ai mises ensemble et nous aurons 5 émissions successives, dont une à assez extraordinaire sur, vous verrez, sur les peintures rupestres, les peintures préhistoriques.